à voix nue. Ce soir encore, Stéphane Delisgeorges s'entretient avec Claude Lorius. Tout de suite, inquiétude, pessimisme sur les climats futurs de la Terre, témoignage d'un expert.
Claude Lorius, on est arrivé au terme de notre itinéraire, de nos 5 stations, c'est la dernière aujourd'hui, auprès de vous, à Saint-Nazaire-les-Hems, dans votre maison. C'est pas très loin de Grenoble, c'est au pied du massif de Beldon, qui est passé un peu dans le brouillard, là, Claude Lorius. On avait parlé de ces articles de l'année 87, les 3 articles publiés dans Nature, et puis, bien sûr, il y en a eu ensuite d'autres. Vous avez parlé aussi d'un article important dans Science, cette fois. Et en 90, il y a un article de Jouzel, entre autres, qui donc, cette fois, encore enfonce le clou sur la sensibilité du climat à l'effet de serre, avec bien sûr cette affirmation que vous aviez déjà eue comme une sorte d'interprétation de vos premiers articles. L'origine anthropique, anthropogène, l'origine venue de l'homme dans cet effet sur le climat général. Et évidemment qu'on date à partir du moment où ce que on peut appeler l'homme a inventé cette révolution industrielle. Et là, ça y est, les choses sont claires. Le rôle de l'homme sur le climat est dégagé, est affirmé, est montré.
Oui, la naissance, effectivement, c'est là le début de l'ère industrielle, 2 siècles en gros. Et puis on voit petit à petit que ça monte. Au début, on ne se rend pas compte, hein, parce qu'il y a des variations naturelles du climat et du CO2 qui masquent un peu lorsque ça commence à émerger. Mais là, après, il n'y a plus de problème. Comme vous dites, le mot exponentiel, ça veut dire que ça va de plus en plus vite et que ça s'envole, et ça s'envolera jusqu'où on ne sait où.
Oui. Alors, d'une certaine façon, ça va être le motif. On a l'impression que c'est fait exprès. On a été acheter le journal à Grenoble ce matin, le Dauphiné libéré. Voilà ce qu'il y a en une. Si le réchauffement climatique se confirme, climat 2. Ce qui nous attend en Isère. Alors, on s'est dit, voilà, il devait être prévenu de l'équipe de France Culture auprès de Claude Lorius. Ils ont fait la haine qu'il fallait, quoi.
Non. Mais non, c'est... parce que si on m'avait consulté, j'aurais fait supprimer le si.
Oui.
Parce qu'il faut bien voir ce reste de gens qui se disent climato-sceptiques. On peut écrire n'importe quoi une fois qu'on a mis si.
Oui. Hein?
Et déjà que c'est pas facile de prévoir le climat global, c'est encore plus difficile de prévoir pour telle ou telle station. Et quand on met si, ça veut dire qu'ils sont pas convaincus.
Oui.
Donc pour moi, c'est un titre qui fait suite à Durban. On va retrouver ça dans les réunions internationales. On a pour 10 ans avant que on reprenne celle qui avait été retenue il y a 25 ans, là, dans cette assemblée, où on avait dit, voilà, les solutions pour éviter que le climat se réchauffe et cause des dégâts. Le problème, c'est pas que le climat se réchauffe, c'est que le réchauffement climatique entraîne des tas de choses, disparition des espèces, la famine, les guerres. Donc, on est de nouveau parti. Et un titre comme ça, où on met « si », ils ont bien fait de ne pas me demander mon avis.
Oui. Si je vous suis bien, d'ailleurs, je comprends parfaitement, mais pour voir le cheminement, c'est-à-dire que là, il y aurait encore une incidence de cette attitude climato-sceptique dont on pourrait parler des heures en montrant qu'elle est plus que suspecte, en tout cas quand elle, d'un seul coup, récuse les résultats scientifiques, ou qu'on accuse le GIEC d'être cet organisme intergouvernemental dans son rapport de synthèse, de faire je ne sais pas quelle magouille pondérée, enfin bref, tout ce que vous savez mieux que moi encore. Est-ce que ça serait une des conséquences donc de cette sorte de lutte des climato-sceptiques? On peut y mettre les industriels du pétrole, on peut y mettre beaucoup de gens hein, dans ces climato-sceptiques, et vous pensez qu'ils ont encore une influence telle que de toute façon ils ont une oreille auprès des politiques qui ont envie que moins ça bouge et mieux on se trouve?
Ben, ça me semble tout à fait normal. Nous, en gros, ce qu'on dit, c'est que c'est la planète entière qui va mal et qu'il faut changer de mode de vie. Et le mode de vie qu'on a actuellement ne vraiment ne permettra pas un futur serein pour l'humanité. Et quand on dit changer de vie, vous voyez bien ce que ça veut dire. On comprend bien que les politiques, ils n'ont pas envie de changer de vie. On comprend bien que le citoyen, lui, dans le fond, ben, pourvu qu'il y ait un peu de neige là-haut, il va pouvoir faire un peu de ski à Noël. Ça lui va bien. Et puis le reste, c'est la vie courante, le confort, les besoins. Or, changer de vie implique vraiment qu'on refonde une civilisation. Et ça, évidemment, c'est entre les mains des financiers, des politiques. Et pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de considérer. Pour eux, le court terme est bien plus important que ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans.
Oui.
Donc, ces articles, c'est bien, mais je veux dire, ça sert à rien.
Alors, Anthropocène, eh bien, c'est un mot qui est dans le titre du dernier livre que vous avez publié et co-signé avec Laurent Carpentier et qui s'intitule « Voyage dans l'Anthropocène ». C'est publié chez Actes Sud avec des photos, avec là encore des propos de vous qui reviennent sur vos expériences, des considérations aussi, bien sûr. Il y a un sous-titre à ce livre, c'est « Cette nouvelle ère dont nous sommes les héros ». Alors, quand on a lu le livre, on se dit, bah oui, c'est une nouvelle ère dont nous sommes les héros, mais c'est presque par antiphrase d'une certaine façon. On a presque envie de rajouter cette nouvelle ère dont nous sommes les martyrs.
Oui, c'est bien exactement ce que l'on veut exprimer dans ce livre. Mais pour tout le monde, le fait que l'homme ait commencé à prendre du pouvoir sur la nature a été trouvé comme une chose formidable qu'il fallait à tout prix y faire. Puis on voit bien qu'il n'y a pas de limite et que cette fois, ce n'est plus utiliser la nature comme une source naturelle de ressources, mais c'est carrément la démolir.
Oui. Alors, petit rappel pour effectivement expliciter le titre. Jusqu'ici, basé sur d'ailleurs le vocabulaire et les considérations des géologues, des géosédimentologues, je ne sais pas si c'est ainsi qu'on les appelle, mais enfin, en tout cas ceux qui dessinent ou périodisent en grandes aires et différentes aires, donc notre planète, jusqu'ici on était dans l'Holocène, on considère qu'on est dans l'Holocène. Tiens, en plus, curieusement, c'est une ère où il y a, semble-t-il, eu la plus grande stabilité climatique, si on la prend dans son entier.
Oui, c'est une période chaude, comme il existe périodiquement. Et c'est une période en particulier où l'homme peut enfin s'installer parce qu'il fait froid, il faut qu'il émigre, ou ainsi de suite. Non, c'est une période de stabilité. L'homme commence à se poser, à cultiver, et voilà, il est bien.
Oui, il se sédentarise, il invente, oui. Il crée les villes. Développement de l'agriculture, et puis de l'artisanat, et puis ainsi de suite, et puis boum, 19e, la révolution industrielle, et hop, les choses mauvaises qui commencent à monter dans l'atmosphère, et qui arrivent. Alors, petite indication, là, que je prends dans ce livre, et pour faire image, encore une fois de plus, aujourd'hui même, et le chiffre est vraiment fort, nous utilisons 16 fois plus d'énergie qu'au début du 20e siècle. C'est pas au 17e, c'est pas.
Oui.
Au début,
oui.
Du 20e siècle.
Oui.
C'est vertigineux, là encore.
Il y a deux raisons. Hein. La population mondiale, oui, a augmenté, mais il est sûr que la consommation par habitant, par être humain, a beaucoup augmenté. Et que l'ensemble des deux fait que, à la fois, on s'envole jusqu'on ne sait où.
Vous avez pris le terme, semble-t-il, vous le dites d'ailleurs, vous le rappelez, ce terme d'anthropocène, qui viendrait d'une certaine façon à la place de ce terme de l'Holocène, à deux auteurs.
Il viendrait pas à la place.
Oui.
Il succéderait
à l'Holocène. Voilà, à la fin de
l'Holocène, il existe, il est réel, simplement, il va être bien plus chaud.
C'est ça.
Que ce qu'on pensait.
Voilà. Et donc, cette nouvelle ère, dont c'est l'avènement, ce terme-là, en tout cas, ce néologisme, on le doit à Eugène Stromer et à Paul Crutzen, semble-t-il. Donc, un Américain, un Hollandais. Et là, je vais presque à la conclusion, parce que c'est un leitmotiv dans cet ouvrage, Claude Lorius, que vous avez signé. Eh ben, c'est catastrophe, quoi. C'est catastrophe et catastrophe. Vous avez commencé à faire la liste. Mais quand on parle d'anthropocène, c'est-à-dire cette fois pleinement envisager le rôle de l'homme sur cette planète, il est omniprésent, il est systématique. C'est pas que l'atmosphère, ça va jusqu'à la géologie, ça va sur le régime des eaux, ça va évidemment dans la destruction des espèces vivantes, donc la biosphère aussi comprise. C'est total.
Oui, vous pouvez ajouter les famines, les migrations, les guerres. Tout ça est derrière est dû à cette variation du climat que l'homme a engendrée.
Oui. Et encore une fois, ça réaffirme là avec une force telle, et vous êtes évidemment au bon endroit pour le voir, Claude Lorius, c'est que tout est en relation ferme. Et que, évidemment, c'est un système. Si on touche un élément du système, on touche tout.
Mais ça, c'est vrai dans le monde moderne, parce que la longue histoire sur des milliards d'années de la Terre, c'est l'histoire de la Terre, je dirais, sans homme. Bon, oui. Le problème qu'on a maintenant, c'est que les changements que nous avons introduits touchent directement aux conditions de vie de l'homme et ne nous permettent pas de prévoir un développement qui soit, comme on utilise souvent le terme, durable. Il n'y a rien de durable dans ce que nous faisons.
Oui.
Les ressources s'épuisent, les dégâts augmentent et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution.
Alors, pour enfoncer le clou, d'une certaine manière, Claude Lorius, dans un chapitre qui s'intitule « Le crépuscule » d'ailleurs, mais il y a ces deux termes, il y a le renoncement ou le sursaut. Et là, voilà, on pourrait y mettre 15 points d'interrogation, le renoncement ou le sursaut. Alors, petit rappel, en 92, sommet de Rio, bon, il y a quelques engagements, c'est un peu heurté, on comprend pas très bien. Et puis, il y a ensuite, on va venir au plus près, hein, puisque par rapport au titre du Dauphiné, qu'on a lu ensemble tout à l'heure, du Dauphiné libéré, climat, ce qui nous attend en Isère, bon, à Durban, d'abord ça a été très confus, sous la présidence de cette Sud-Africaine qui a eu beaucoup de mal, dans ses réunions, heurtées, ainsi de suite, bon, il semble qu'il y ait, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais il faut beaucoup d'attention, et c'est, enfin je sais pas, vous me donnerez votre sentiment, Claude Lorius, tout de suite. Mais bon, il y aurait une espèce de marche à suivre. Alors peut-être, premier point positif, les pays les plus producteurs, donc de mauvais rejets, acceptent de signer quelque chose aux alentours de 2020. Rien n'est assuré. Moi, ça me laisse complètement dans les spectatives, là encore, comme citoyen, j'entends, si...
Ben oui, on a pas oublié Copenhague, hein. C'est pas si vieux.
Oui.
Et ce qui s'est passé depuis, c'est rien. Oui. Vous savez aussi que on voit maintenant les riches ne veulent pas payer pour les dégâts. Et l'exemple, moi, qui me marque, c'est de voir dans les journaux le Canada se retire.
Oui.
Alors parce que le Canada, il a le projet d'utiliser le pétrole qu'on va chercher dans les chites. Et évidemment, c'est catastrophique pour l'environnement. Alors, quand vous voyez qu'un pays comme le Canada se retire de la chose, l'espoir, les riches
amoindrit.
Ne voudront pas payer.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a une espèce de cagnotte qui devait se constituer pour fournir des ressources aux pays qui veulent lutter, qui sont dans la mouise contre cet État. Il n'y a pas d'argent. Et le fait qu'un pays comme le Canada... Pourtant, on l'aime bien, le Canada. Eh ben non, il ne veut pas. Et s'il ne veut pas, il ne sera pas tout seul. Déjà, les Chinois, j'hésitais beaucoup, l'Inde, les Russes. Oui, de ce côté, c'est pour moi plus que du pessimisme.
Oui. Et curieusement, on peut le... Enfin, pas curieusement d'ailleurs, puisque encore une fois, tout est corrélé. Mais on est là les témoins tout à fait passifs d'une situation qui, et on va revenir dans les choses qui vous ont préoccupé et qui nous ont arrêtés pendant toute cette série aujourd'hui en votre compagnie, Claude Lorius. C'est que, je prends prétexte de l'Alaska, je prends donc prétexte de ce qui se passe en Arctique, c'est évidemment à tout le moins terrible ce qui se passe en Arctique. Parce que là, il y a une précipitation folle, des alliances, des contre-alliances entre les Canadiens, les Américains, les Russes. laissé ouvert, bien évidemment, grâce au réchauffement, ce passage du Nord-Ouest qui permet une économie de transport, mais assurer des ports pour que ces transports passant par le passage du Nord-Ouest trouvent des ports de secours, et puis cette lutte pour à nouveau faire une sorte de course au pétrole et au gaz arctique, alors que, et ça fond, et ça continue à fondre, et ça fond encore. Alors revenons, d'un seul coup, à l'Antarctique. Et je sais que vous avez réagi récemment, parce qu'on a commencé à voir que, indépendamment de cet extraordinaire traité signé à Madrid, où on ne touche à rien, on ne fait pas de prospection pour ce qui pourrait être en dessous, on fout la paix à ce continent blanc qui reste dévolu à la science, eh bien, semble-t-il, les Russes, et puis appuyé indirectement par les Chinois et par quelques petites manœuvres dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais en Antarctique même, pourrait faire que l'Antarctique se transforme en Arctique. Et vous avez dit que c'était très inquiétant, là encore, Claude Lorius.
Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire sur la planète, c'est le traité de l'Antarctique, qui effectivement protège un continent, mais un continent sur lequel chacun peut aller. Et on voit bien que si les Russes, les Chinois ont un comportement tel qu'ils l'ont dans l'Arctique, on voit bien que un traité, le traité donc de l'Antarctique, ça se signe, mais ça s'annule aussi. Il y aura un jour, de nouveau, un vote. Et moi, je redis que ce qui m'attriste le plus, c'est l'histoire du Canada, qui pour moi était une nation évoluée, où il faisait bon vivre, et de voir ça, on peut s'attendre à n'importe quoi. Donc moi, je dis pour l'instant, il n'y a que l'Antarctique qui assure cette préservation de l'environnement, et j'essaie d'aider Luc Jacquet, là, avec qui nous allons faire un film, justement, parce qu'on va reparler du traité de l'Antarctique, pour essayer de faire que ce traité soit maintenu.
Alors, Antarctique, là encore, il y a quelque chose qui, cette fois, vous lie, mais de façon très positive aux politiques, c'est que vous avez reçu de Rocard, le ministre, le Premier ministre, une belle médaille, en Arctique aussi, hein, c'était, je crois, sur les côtes du Groenland, ou, hein, c'est bien ça. Donc, dans quelques froidures, là encore, hein, que vous aimez bien, Claude Lorius. Bon, c'était pas...
Non, dans un bateau de croisière, hein, c'est la vie, ça
oui,
va.
Mais
hein.
Vous étiez sur le pont aussi.
On était sur le pont, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc la température ressentie, il y avait un drapeau derrière, une grande croix là, donc beaucoup de fierté. On n'avait pas froid.
Oui.
Même pas lui.
Oui. D'ailleurs, il fait la postface de votre ouvrage, Voyage dans l'Anthropocène. Et il raconte, et c'est un plaisir en même temps de lire ça, c'est que il a été gonflé politiquement quand il fait évidemment très très copain avec le Premier ministre australien, ouais. Et qu'il le dit Premier ministre australien veut absolument lui parler de l'Antarctique, et Rocard lui dit mais ça m'intéresse pas, t'es manchot. Pourtant l'Australien convainc Rocard de prendre fait et partie, et on sait son rôle très important dans le traité de Madrid. Et là, pour une fois, on a eu un homme politique, on ne va pas tresser des lauriers à l'infini au Premier ministre Rocard, mais il a été courageux, il a été convaincu.
Il a été courageux, simplement, le pouvoir qu'il a maintenant, par exemple dans l'Arctique, mais reconnaître qu'on n'est pas en position de force, même si c'est lui qui représente notre pays, parce que les pays riverains, eux, ils défendent leur pourtour, hein, et leur propriété, entre guillemets.
Claude Lorius, après cette sorte de catalogue des pessimismes, hein, bien sûr, qu'on partage là, en particulier à l'issue de cette réunion de Durban, avec ces 194 pays qui se sont réunis pour prendre ces décisions, à part celle que je disais, donc de mobiliser sur l'arrêt des rejets des pays très développés, à qui pensez-vous comme allié, s'il y en a? Est-ce que vous y réfléchissez parfois, Claude Lorius, pour toucher quand même une conscience citoyenne de façon plus approfondie, parce que c'est tellement radicalisé, là?
Non, moi, j'ai pas de solution. Simplement, pour être en paix, j'essaie de faire des conférences, de répondre et autres, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Le pouvoir n'est pas à portée de main des scientifiques ou des gens qui ont des idées raisonnables sur la façon dont pourrait s'organiser une société. Alors, non, c'est... Non, je suis tout sec. Enfin, vous trouviez vous-même une conclusion de nous dire ce qu'il faut faire. Hein.
Non, mais ce sur quoi on peut peut-être réfléchir, parce qu'à un moment dans votre ouvrage, Claude Lorius, vous dites que, évidemment, c'est des choses que beaucoup vont répétant. Vous dites feu sur, et puis on pourrait faire une liste. Alors en particulier, feu sur les cynismes, les intérêts à très court terme, et ainsi de suite. Après ce feu sur, vous dites que, après tout, les choses ne sont pas inscrites dans le marbre. C'est pas comme ça que vous l'écrivez, mais en tout cas, c'est ce que vous voulez dire. Et que, il peut y avoir des bouleversements, il peut y avoir des consciences citoyennes qui, d'un seul coup, crient plus fort. À ce moment-là, on peut se poser la question. La fonte des neiges sur la chaîne des Alpes pour les skieurs amateurs. Bon, qu'est-ce qui pourrait être un fait marquant qui, d'un seul coup, fasse lever une sorte d'indignation, une révolte, quand on voit que l'année passée, alors je sais pas, ça c'est de la météo d'une certaine manière, c'est pas de la climatologie, mais l'année passée a été, de façon très marquée par rapport à 2011, une année où il y a eu le plus de situations climatiques extrêmes.
Oui, c'est vrai.
Et avec aussi une corde de malheur qui s'ensuit. Qu'est-ce qui pourrait indigner l'humain, Claude Lorius?
Une catastrophe. L'indignation est nécessaire, mais c'est pas ce qui conduit forcément à l'action, comme on le voit. Des ouvrages très populaires, oui, on s'indigne, on trouve que c'est pas bien, mais passer à l'action, c'est autre chose. Moi, je vois des philosophes là qu'on a actuellement qui réfléchissent un peu à ça, comme Michel Serres, mais on n'a pas, je sais pas, moi je relisais des choses sur Gandhi.
Oui.
C'est extraordinaire de voir ça. Mais est-ce que maintenant on serait capable effectivement de voir qu'un homme donnant l'exemple, pauvre, sans moyens, soit capable d'entraîner et de changer une situation de son peuple et des personnalités comme ça à l'échelle mondiale, on n'en voit pas trop. Il y a toujours quelque chose derrière. Celui qui est arrivé au pouvoir, c'est bien souvent qu'il a un petit peu fraudé ou fait des choses comme ça. Les tâches sont nombreuses derrière ceux qui ont le pouvoir. Et ça ne rend pas optimiste. Hein. Par ailleurs, que dire de plus que ce que dit l'ONU? Il n'y a qu'à lire. L'ONU, c'est quand même l'organisation mondiale. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ils disent sur les milliards d'hommes qui n'ont pas accès à l'eau, les famines, les guerres, c'est listé, c'est dit. Et alors, on n'a pas le mécanisme qui permette de déclencher les choses. C'est déjà assez formidable que l'ONU soit arrivée à écrire ça, parce que ça dépasse largement le champ de manœuvre des scientifiques. Mais ceci dit, ça n'entraîne pas l'action, hein. Donc oui, moi je dirais pour avoir la conscience tranquille, effectivement, j'aime bien en parler, dire ce qu'on a vu, rappeler les grands chocs que j'ai eus. Je sais que le plus ancien, et à l'époque j'avais pas vraiment réalisé, c'est 1965 au pôle Sud, où on a mesuré la radioactivité de la neige et qu'on a trouvé là-bas des radioéléments, des déchets qui venaient des tests menés dans les pays de l'hémisphère nord. Alors tout ça reprend bien sûr de l'actualité. Il y a le Japon, là, ça explose. On en parle pendant quelques semaines, puis comme vous voyez maintenant, bon, on va essayer de conserver les centrales parce que changer ça, ça coûterait trop cher, et ainsi de suite. L'Antarctique est riche en événements qui ont marqué la planète. Le trou d'ozone, c'est quand même quelque chose. Il n'y a personne là-bas. Le trou d'ozone est dû aux émissions des CFC des humains. Et c'est là-bas qu'on découvre le trou d'ozone. Vrai. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière pour ce genre de pollution. Et donc, on est tous, je dirais, dans le même bain. La chance qu'on a eue, c'est justement que c'est un territoire vierge. Que localement, je dirais, il n'y a pas de pollution, à part quelques centaines de scientifiques qui passent leur vie là-bas, Et c'est là qu'on a ces images qui concernent toute la planète. On n'a pas besoin d'aller dans l'espace, on a ça écrit dans la glace. Et ça, c'est... Moi, ça m'a beaucoup touché. Au début, c'était l'aventure. Et après, ben, c'est effectivement le goût des découvertes et de se dire que, ma foi, fallait essayer de faire quelque chose pour que change la destruction de l'environnement de la planète. L'environnement de la planète, c'est notre environnement à tous, les humains. Mais moi, je sais pas où aller ni comment aller plus loin. Je vous redis, je me donne un peu une conscience tranquille en faisant des choses, en écrivant un livre, mais c'est pas ça qui me laisse espérer qu'on va pas, pendant les années à venir, continuer à agir comme on le fait.
Je voulais vous poser une question extrêmement égoïste, Claude Lorius, pour finir, parce que moi aussi j'ai très très envie d'aller voir de plus près le grand continent révélateur. Puisque là, vous venez de résumer combien c'était un révélateur, un extraordinaire témoin. Si vous me donnez un conseil quand je vais partir pour le continent blanc, lequel ça serait, Claude Lorius ?
D'abord de bien vous habiller.
Bon.
Ensuite de choisir votre endroit. L'Antarctique est un grand désert et tant qu'à faire, ça dépend un peu de l'intérêt que vous avez. Regarder la glace ne va pas forcément... vous inspirez, vous ne devinerez pas forcément ses secrets. Allez voir un volcan d'abord. Bon, allez voir les manchots, allez voir cette faune unique.
Je connais les cousins déjà, les royaux, alors j'irai voir les empereurs.
Ah non, mais c'est autre chose.
Ah hein. Oui.
Les empereurs, l'empereur, c'est une civilisation entre guillemets spéciale qui se conduit pas comme tout le monde. Et qui sait s'organiser. Et ça, c'est formidable, cet exemple de solidarité qu'il donne et qu'on pourrait essayer d'avoir.
Fin de cette rencontre de Stéphane Delisgeorges avec Claude Lorius. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Chantal Nouvelot, réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.